Là, c'est un exemple. Une révolution industrielle est en marche. Il s'agit de ne pas la louper si on veut contribuer à l'équilibre de nos balances commerciales. Naturellement, dans le débat, on pourra revenir sur les ETI au-delà de la Fab Lab. Il y a une chose que j'ai lue dans le livre de Guillaume Duval, c'est la démographie. Son idée, c'est que l'Allemagne profite beaucoup à court terme du crash démographique et que, comme on a beaucoup désinvesti, on a beaucoup limité les dépenses publiques, ils aggravent leur crash démographique. Donc, à terme, les Allemands vont avoir un très sérieux problème et c'est un point important dans votre livre et c'est la faute à Schröder. Enfin, je caricature. Mais alors, s'il y a 900 000 immigrés européens qui viennent en un an en Allemagne, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière une manière de résoudre la crise démographique ?
Oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça que les Allemands le voient. Ils font de la pub pour faire venir les jeunes du reste de l'Europe, mais Pierre-Noël Giraud a déjà abordé la question. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre du fonctionnement de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une catastrophe. Les pays d'Europe du Sud en crise, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ce sont déjà eux-mêmes des pays qui étaient en grave difficulté démographique avec des ratios de 1,3, 1,4 enfants par femme depuis des décennies. C'est déjà des pays où il y a très peu de jeunes. Si leurs quelques jeunes éduqués, formés, vont travailler en Allemagne parce que c'est un pays qui a une industrie solide et qui est en état d'implosion démographique, ça peut peut-être être une solution pour l'Allemagne, encore que c'est pas forcément des champions de l'intégration. Enfin, on n'a pas de leçons à leur donner, mais c'est pas forcément des champions de l'intégration des immigrés. Hein. C'est pas toujours très facile. Mais bon, ça peut être une solution d'un point de vue allemand, mais c'est une catastrophe pour l'Europe parce que ça veut dire que on a gagné dans la crise le Mezzogiorno puissance 10. Et qu'il ne se passera plus rien en Espagne, en Italie, en Grèce pendant 50 ans, et que le seul moyen, ce serait effectivement de construire le type de choses qu'on a construit avec Limoges ou la Creuse en France, c'est-à-dire des transferts massifs du nord vers le sud. Mais comme il ne vous a sans doute pas échappé, ce n'est pas vraiment parti pour là tout de suite. J'ajoute que ce serait pourtant tout à fait légitime, parce que c'est malgré tout aussi un hold-up du point de vue allemand. En fait, ce n'est pas du tout volontaire, hein. Mais ça consiste quand même à, après avoir bénéficié du fait de ne pas avoir de jeunes et d'enfants et des économies de dépenses publiques et privées que ça permet, bénéficier ensuite des dépenses qui ont été faites dans les pays du Sud pour éduquer ces jeunes et ces enfants, dépenses qui sont en partie à l'origine des difficultés que rencontrent ces pays aujourd'hui. Donc ce serait tout à fait légitime de payer, mais on n'en prend pas vraiment le chemin.
Donc on passe la parole à la salle. Donc la parole au Maroc, Mohamed Soual.
Merci Monsieur Berry. En tout cas, j'étais bluffé par ce qu'a dit M. Puzeau et j'aimerais lui poser cette question. Ça semble tellement...
Quand une révolution démarre, hein, ça surprend.
Oui, ça surprend. Ça surprend
on n'y croit pas forcément. Mais...
Non, c'est pas la question. Donc c'est à la portée de tous, en fait. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y aurait plus de frontières technologiques, il n'y aurait plus toutes ces avances. Quid derrière de la recherche-développement. Et puis, j'aimerais, derrière cette question, vous savez, en ce moment, il y a eu un dialogue franco-marocain. François Hollande était, il y a quelques semaines, au Maroc. Et puis, on a beaucoup parlé. Je sais qu'il y a beaucoup de politesse à ce niveau de colocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je parle à Pierre-Noël par rapport à cette question. Est-ce que ça fait partie des solutions ou ça fait partie aussi des problèmes que vit un pays comme la France? Et effectivement, je rejoins votre question dans l'intervention de M. Duval. J'étais extrêmement surpris d'apprendre que le déclin démographique aurait pu être une solution, quand bien même il y a une mobilité des gens en Europe. Je pense, est-ce que avec les problèmes de financement des retraites et toutes ces questions-là, comment ils vont les financer, finalement, à part prêter à 4% à la Grèce?
Alors, il y a une question pour chacun.
Donc, à moi, vous avez posé deux questions. La première, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Et la deuxième, que devient la R&D? 5 000 euros, c'est accessible à tout le monde. Hein, c'est le prix d'un Fab Lab. Pour vous donner un petit peu une idée, le Fab Lab Café de Montmirail, on l'installe dans un magasin de chaussures désaffecté au centre-ville, surveillé par la dame du syndicat d'initiative. Les profs du collège de Montmirail, parce qu'on n'a pas de lycée, vont venir avec leurs élèves s'entraîner. On y a associé le club informatique des retraités. Et tout ça va faire tout ce qu'il peut. Et puis on va y attirer tous les services maintenant de toutes les entreprises du coin pour montrer ce qu'on peut faire. Donc 5 000 euros, n'importe quel pays peut en faire et faire des objets en plastique qui coûte en plastique que quelques centimes. Deuxième question, la R&D. Alors, s'il y a beaucoup de solutions en plastique, pour le moment, il y en a relativement peu en métal. De mémoire, les alliages de titane en poudre, travaillables en fabrication additive, je crois qu'il n'y en a qu'une dizaine à l'heure actuelle, alors qu'en fabrication soustractive, il doit y avoir au moins une centaine d'alliages de titane courants. Et dans d'autres métaux, ça n'existe pas encore. Donc, il y a vraiment du travail à faire. Et on se rend compte, et ça c'est important, que des objets conçus en titane fabrication additive sont moins chers que des objets conçus en aluminium, y compris en fabrication additive aluminium, à cause de la résistance mécanique du titane. Donc ça bouleverse la façon de concevoir des projets. Donc il y a beaucoup de travail pour la R&D et beaucoup de façons nouvelles de concevoir des produits innovants.
J'ai cru voir qu'aux États-Unis, où les gens ne sont jamais à court d'idées, on fabriquait des armes avec.
Oui, c'est vraiment facile, parce que si vous tirez qu'un ou deux coups, vous prenez votre pièce métallique, vous la photographiez et vous l'imprimez en plastique et vous tirez un coup.
Alors moi, qui m'intéresse beaucoup aux matières premières, j'en tire la conclusion que le titane va devenir une matière première rare avant qu'on arrive à développer à grande échelle des mines de titane, ce qu'on fera sans aucun doute. Pour répondre à ta question, je veux dire, c'est une illustration supplémentaire. Moi aussi, j'ai entendu parler de ça il y a 5 ans. Je me suis dit, ce truc-là, si ça marche, ça va tout changer. C'est une illustration supplémentaire que la technologie, maintenant, elle est en partage. S'imaginer que, par rapport à la Chine, on a une quelconque avance technologique qui est durable est une erreur totale. Et ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est que les États-Unis, naturellement, qui sont très une grande orientation haute technologie, veulent être les leaders là-dedans. On peut faire confiance à leurs labos et à leurs connexions université-entreprise pour y arriver. Mais les Chinois ont dit non, ça va être nous. Donc les Chinois, ils vont nous dépasser si on y prend garde. Mais déjà, dans un certain nombre de domaines, ils nous dépassent. Ou ils savent faire des choses bon marché que les Africains peuvent acheter, nous, on ne sait plus, etc. Donc c'est une dimension absolument fondamentale de la globalisation, c'est que la technologie est en partage. Elle est en partage, elle est disséminée partout par les firmes globales. Et c'est une des raisons, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, pour lesquelles il ne faut pas se désindustrialiser. Parce que dans moins de 20 ans, dans 5 ans dans certains domaines, dans 20 ans dans les domaines les plus technologiques, les Chinois font absolument jeu égal avec nous sur le plan technologique dès aujourd'hui, mais ils le feront sur le plan des coûts aussi. Les coûts augmentent extraordinairement vite en Chine, et donc ce qui aura disparu, on aura beaucoup de mal à le reconstituer. Parce que il faut tenir compte du capital humain. Une industrie, c'est quelque chose qui est fondé sur une énorme accumulation de capital humain. Je cite toujours l'école des arts et métiers comme quelque chose qui ne se crée pas comme ça, si tout disparaît. Bon. Donc si on a une bonne gestion à long terme de notre capital humain, on doit tenir compte de ce que va être le monde dans 20 ans. Le monde dans 20 ans, l'Asie est à égalité avec nous, bon, et c'est l'Afrique qui va se développer. Mais l'Afrique a un tel marché intérieur potentiel qu'elle va se développer grâce à des investissements directs étrangers, mais très largement sur elle-même et pour elle-même. Donc on ne subira pas de la part de l'Afrique la compétition qu'on a subie de la part de la Corée, de la Chine, etc. Voilà.
Peut-être un mot sur les Fab Labs, même si la question ne m'était pas adressée, parce que l'enjeu central dans les Fab Labs, ce n'est pas tellement qui les utilise, c'est qui fabrique les machines. Et là, je ne suis pas sûr qu'on soit très très bien parti France pour l'instant. C'est toujours la question des moyens de production qui est centrale, je pense, dans le développement d'une industrie et dans le futur. Un mot sur la colocalisation, parce que c'est le précédent allemand, ce qui s'est passé en Allemagne avec les pays d'Europe centrale et orientale, qui effectivement oriente aujourd'hui les réflexions du gouvernement français, notamment donc la question de savoir si en gros est-ce que l'industrie française pourrait pas avoir le même type de relation avec les pays du Maghreb en particulier que celle que l'industrie allemande a construite avec les pays d'Europe centrale et orientale. Ça pose évidemment d'autres problèmes en termes à la fois de tradition industrielle, de stabilité sociale et politique, etc. Et il y a aussi une charge historique qui n'est pas forcément simple à gérer entre les Allemands et les pays d'Europe centrale et orientale. Mais c'est compliqué, mais je crois qu'effectivement, ça peut être une voie positive à la fois pour les pays du Maghreb et pour la France. Il est évident que dans ce contexte-là, il faut aussi que les Français acceptent de changer de point de vue sur un certain nombre de choses. On ne peut pas vouloir discuter de ce genre de choses avec le Maroc, par exemple, et ensuite vouloir rapatrier tous les centres d'appel qui sont installés au Maroc. Il faut choisir son discours et sa politique dans ces domaines-là. Dernière chose, donc sur le plan du déclin démographique, oui, ça reste une menace très lourde. Si vous voulez, l'Allemagne, c'est un pays où il y a déjà plus de vieux qu'en France, mais il y a tellement moins de jeunes que pour l'instant, le ratio entre ce qu'on appelle les gens d'âge inactif, c'est-à-dire les moins de 15 ans, plus de 65 ans, et la population d'âge actif, c'est-à-dire de 15 ans à 65 ans, c'est la norme qui est établie comme ça, ce ratio-là est plus favorable en Allemagne aujourd'hui qu'en France. Et c'est ça qui compte sur le plan économique. Mais c'est sûr que pour l'avenir, ça reste un très gros problème pour eux. Je dois dire que c'est un problème, ils se sont arrangés pour l'aggraver. C'est-à-dire qu'une des choses qu'ils ont fait avec Schröder et par la suite, c'est effectivement des réformes des retraites qui consistent à limiter beaucoup le revenu futur des retraités. Donc moyennant quoi, ils sont en train de se rendre compte effectivement de ce qu'ils ont fait. Donc il y a eu un rapport de la ministre des Affaires sociales l'automne dernier qui établissait qu'un Allemand qui gagne aujourd'hui 2200 euros, il touchera en 2030, avec les règles qu'ils ont décidé d'appliquer à ce moment-là, il touchera en 2030 688 euros de retraite, ce qui correspond aujourd'hui au minimum vieillesse allemand. Donc là, ils commencent à avoir très très peur de ce qu'ils ont fait. Il y a déjà plus de pauvres vieux en Allemagne qu'en France, mais il va y en avoir beaucoup dans le futur. Alors peut-être que nous, on va s'arranger pour avoir aussi beaucoup de pauvres vieux, mais en tout cas, eux se sont préparés ça, mais ils commencent vraiment à avoir peur de ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'ils vont essayer de changer les choses là-dessus. Ce qui est frappant, c'est que les socialistes avaient fait un texte qui a été changé entre-temps, mais qui reprochait l'égoïsme de la politique allemande. C'est d'une part totalement inefficace, parce que quand vous reprochez à un dirigeant politique de privilégier ses électeurs, ça rassure plutôt ses électeurs que l'inverse, et donc ça renforce plutôt sa position. Et d'autre part, je pense que c'est faux. C'est-à-dire que le principal reproche qu'on peut faire à la politique allemande aujourd'hui, c'est qu'elle est suicidaire, elle est stupide d'un point de vue allemand. C'est-à-dire qu'elle consiste quand même à affaiblir l'industrie allemande du point de vue de ses débouchés en Europe. Alors, elle a su, pendant un certain temps, trouver d'autres débouchés. Mais là, déjà, dès cette année, ça devient plus compliqué. Les prévisions, c'est 0,3% de croissance pour l'Allemagne cette année. Alors, c'est plus que nous, d'accord, mais c'est pas beaucoup. Et l'an prochain non plus. Et d'autre part, c'est en particulier dramatique pour les épargnants allemands. On dit souvent, les Allemands, ils ont cette attitude parce qu'ils sont vieux, ils épargnent beaucoup, etc. S'ils étaient rationnels, ils ne se comporteraient pas de cette manière-là. Parce que maintenir le reste de l'Europe en récession, c'est le plus sûr moyen de faire en sorte... Enfin, si vous voulez, un pays qui a des excédents extérieurs importants, ça veut dire que l'épargne des gens qui sont dans le pays n'est pas investie pour une proportion non négligeable dans le pays lui-même, mais à l'extérieur. Et cet extérieur, c'est pour une proportion non négligeable le reste de l'Europe. Maintenir le reste de l'Europe dans la récession... C'est empêcher le reste de l'Europe de se désendetter, c'est l'obliger à finir par annuler une partie de ses dettes, et c'est au bout du compte faire en sorte que les Allemands ne retrouvent pas leur épargne pour la troisième fois en un siècle. La chose la plus étonnante aujourd'hui, c'est que l'attitude du gouvernement allemand est parfaitement irrationnelle du point de vue des intérêts objectifs des Allemands eux-mêmes, mais c'est très compliqué de leur faire comprendre.
Postelvinet.
En fait, plutôt des remarques. Sur les Fab Labs, certes, l'État n'organise pas tout. Néanmoins, à la fois dans les assises de l'entrepreneuriat, dans les montants mis en place via les investissements d'avenir et via d'autres circuits, il y a tout de même un certain nombre de choses qui ont contribué au fait qu'il y en ait une cinquantaine et que ça se développe rapidement. Une question peut-être sur ce point. Il y a la question des lycées professionnels. Je pense qu'il y a une part d'équipements importants qui sont disponibles et qui pourraient être mis à disposition le soir à condition de trouver les conditions pour que ça s'ouvre et que ça permette avec un minimum d'investissement, alors que l'État est pauvre, de mettre des outils en bon état de marche à la disposition de gamins qui finalement trouveraient ça plutôt amusant, qui ne trouveraient ça pas pénible. Sur l'Allemagne, deux points d'accord et deux de désaccord vis-à-vis de M. Duval. Oui, la machine, en termes de spécialisation, c'est bien. Le basculement de la Chine vers plus de consommation intérieure pour sa propre croissance nous donne en fait une opportunité qu'il faut saisir, qui est transitoire. Je suis d'accord avec ça avec Pierre-Noël Giraud. Ils vont d'ailleurs acheter nos propres marques pour ça, mais qui néanmoins, finalement, sur des biens de consommation et l'art de vivre, laisse une petite marge. Sur la démographie, je suis d'accord aussi avec une légère nuance. Depuis le sommet de Hampton Court de 2005, on a expliqué aux Allemands, dans une lettre commune entre Chirac, Zapatero, Schröder et personne, que leur mur serait le nôtre. Auparavant, on s'en fichait un peu parce que bon, on avait notre propre politique démographique et familiale. Mais à partir du moment où ils allaient dans le mur, ce mur serait le nôtre du fait du marché intérieur. Et donc, ils ont commencé à faire des choses sur les crèches et sur les modes d'accueil et le développement des enfants, voire même sur l'organisation de l'éducation primaire qui n'était pas très favorable à la natalité. C'est encore loin de ce qu'il faudrait, mais il me semble que là, il y a une dynamique qui est peut-être plus favorable. Là où je suis plus d'accord... C'est sur Arts et sur les ETI. Sur les ETI, d'abord, non. Bien sûr, la spécialisation compte, mais la taille compte aussi. Quand on veut exporter dans 5 ou 6 pays, il faut du temps. Et le patron qui a 300 personnes ou 500 personnes peut faire ça plus facilement quand il en a 50. Et donc, le rapport en termes de commerce extérieur, si on regarde toutes les courbes qu'on voudra, le fait qu'il y ait 2,5 fois plus de TI en Allemagne qu'en France, ça joue quand même pas mal sur le sol commercial. Et c'est bien une question de taille parce que c'est une question de temps disponible et de capacité juridique à s'adapter à des réalités différentes, sachant que nos propres PME exportent souvent dans une direction ou deux, mais pas davantage. Les ETI, un peu davantage. Et sur Hartz et le méchant Schröder, il y a quand même une boucle logique entre compétitivité prix et compétitivité hors prix. Et à la fois, je suis d'accord que les Allemands ont bénéficié largement des PECO et de l'ouverture à l'Est. Ça représentait 60% des investissements qui étaient allemands dans la totalité des investissements dans les PECO. Mais en même temps, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu les négociations Hartz qui permettaient la flexibilité ad hoc. Et ces négociations ne sont pas tellement le fait de Schröder, c'est le fait de la Mitsubishi-Mung et du fait que dès 98, alors que Volkswagen allait très mal, ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose et que ça a été mis en place au cours des 5 années qui ont suivi. Donc je pense qu'il y a tout de même une boucle et que laisser croire que finalement c'est pour rien pose un peu un problème au moment où la France est confrontée peu ou prou au même genre de difficultés. Enfin, j'ai une question pour Pierre-Noël Giraud. C'est sur la réduction des charges, sur bas salaire ou haut salaire, en fonction de ce que tu as dit. Il y a d'une part une logique, je vais la caricaturer, une logique femme de ménage, c'est peut-être pas, mais qui consiste à dire on fait des réductions de charges sur les bas salaires et c'est nécessaire pour l'emploi et ça a des effets à 5-10 ans. Et ça, c'est 1,6 SMIC. Et puis, il y a d'autre part, la version galloise, c'est plutôt 3,5. Et c'est plutôt de la montée en puissance. Quid des deux, sachant que l'un, c'est 20 milliards par an et que l'autre, c'est ce que sera le CICE plus éventuellement d'autres mesures. Mais qu'un cadre compétitif, ça peut embaucher des services à la personne, alors que par contre, il est rare que les services à la personne permettent de gagner des parts de marché internationales.
Bien, naturellement, par définition, un emploi sédentaire n'est en compétition qu'avec d'autres emplois sédentaires dans le territoire. Mais cette question, je vais y répondre, mais en faisant un petit détour. Dans les politiques visant à tenir notre rang dans la compétition internationale, disons ça de façon extrêmement neutre et générale, on privilégie les nomades. J'ai même dit qu'on privilégiait une partie seulement des nomades, c'est-à-dire les nomades high-tech ou les nomades Hermès Vuitton, quoi. La France des châteaux et du luxe d'un côté et l'aérospatiale de l'autre, pour faire court. Mais on néglige encore plus le secteur sédentaire. Et là, j'en viens à ta question. Un moyen de réduire les inégalités et d'obtenir de la croissance, le secteur sédentaire en France, c'est quand même 80% des emplois. C'est l'amélioration de la qualité des biens et services sédentaires de manière à ce qu'ils puissent gagner des parts de marché, non pas à l'international, mais contre les biens nomades. Alors on me dit, quand je dis ça, mais ce n'est pas substituable. Hein. Un bien nomade qui est un bien manufacturé, typiquement, n'est pas substituable avec un service. Beaucoup d'emplois sédentaires sont des services. Mais non, mais il faut prendre les choses par grandes catégories de consommation. Prenez, par exemple, le déplacement urbain. Bon, le déplacement urbain, on peut mettre en place des moyens de déplacement urbain adéquats aux désirs et aux moyens de paiement de la population de bien des manières différentes. Certains sont très fortement intenses en emploi nomade et d'autres sont beaucoup plus intenses en emploi sédentaire. Donc à un certain niveau de généralité, il y a bien une compétition entre les emplois nomades et sédentaires pour satisfaire des besoins donnés. Et donc, en complément des politiques visant à augmenter le nombre et la qualité de nos nomades, il faut augmenter la qualité, l'attrait des biens et services sédentaires en améliorant la productivité, la qualité, etc. Secteur totalement négligé dans les politiques, pour des raisons qu'on comprend, c'est très difficile. Alors, pour en revenir à la question de fiscalité, de taxes, etc., je répondrai pas directement sur les charges sociales, mais je vais répondre pour la TVA. Si on est cohérent, on supprime la TVA, on ne veut pas mégoter, passer à 5, on supprime la TVA sur tous les biens et services sédentaires, totalement, et on la reporte intégralement sur les biens et services nomades, ce qui n'affecte que commencer en rien la compétitivité, ce qui naturellement risque de susciter du travail au noir, mais le travail au noir, remarquez bien que c'est toujours dans le sédentaire. C'est un peu difficile d'imaginer comment on faisait juste après la guerre, le trafic de cigarettes. Bon, oui, mais d'accord, mais le trafic d'iPad, je vois mal. Pour des raisons que les mêmes raisons qui font que les Allemands peuvent vendre 15% plus cher. Par exemple, moi, je n'achète pas des médicaments au Nigeria. Et jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous faux. Ils sont même tuent. Ils tuent. Non seulement ils font des faux antibiotiques, mais mettent du poison dedans pour que le type qui les a pris n'aille pas les accuser. Donc, alors les charges sociales, on peut faire un peu le même raisonnement. Sauf que, tenant compte de la nécessité de développer la qualité, la compétitivité du secteur sédentaire, dans le cas de la TVA, si on est radical, on fait ça.
Oui, sur l'Allemagne. Donc oui, la modération salariale a été beaucoup le fait des syndicats dans les entreprises et ça a joué un rôle majeur. Je pense que ça joue effectivement un rôle beaucoup plus important dans le redressement de l'industrie allemande que les mesures Schröder par elles-mêmes. Les mesures Schröder par elles-mêmes, elles ont fait une chose qui est significative, mais qui est sans doute vraiment pas transposable en France. C'est que l'Allemagne, c'est un pays très conservateur, comme je vous l'ai dit. C'est un pays très conservateur, en particulier sur un plan, c'est sur la place des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail en particulier. Donc la tradition allemande, c'est les 3K, Kirche, Kinder, Küche, donc l'église, les enfants, la cuisine. Donc ça, c'était Guillaume II qui disait ça au début du XXe siècle. Mais vous auriez posé la question à Adenauer en 1960, je pense qu'il n'aurait pas répondu très très différemment. Donc ce que Schröder a fait, c'est qu'il a fait des mesures sur le marché du travail qui permettent à l'Allemagne de commencer à sortir de cette situation, mais de sortir de cette situation de manière très inégalitaire. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un des pays d'Europe où l'écart... Enfin, ça n'a rien à voir avec la Scandinavie là-dessus. C'est un des pays d'Europe où l'écart de salaire est le plus important entre les hommes et les femmes. C'est un des pays d'Europe où l'écart de temps de travail est plus important entre les hommes et les femmes. Si vous voulez, un Allemand, en moyenne, chaque semaine, il travaille un petit peu moins qu'un Français chaque semaine, en moyenne. Un homme allemand, il travaille une heure de plus qu'un homme français. Une femme allemande qui occupe un emploi, elle travaille trois heures de moins qu'une femme française qui occupe un emploi. Et cet écart s'est accru de la dernière décennie. Donc oui, c'est beaucoup ça, et c'est dans une logique effectivement de développement de l'emploi sédentaire, mal payé, tenu par des femmes. Donc Schröder, les mesures Schröder ont beaucoup servi à développer ce type de choses. Alors, on peut penser, moi je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas forcément un modèle qu'il faut chercher absolument à copier. Je pense qu'il y en a d'autres, si on veut copier des choses sur ce plan-là. C'est vrai que les Scandinaves, ils ont à la fois plus d'emplois que nous et plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça me paraît être un modèle sans doute tout aussi compliqué à copier, mais qui vaut mieux essayer de copier que le modèle allemand sur ce plan-là. Mais après, c'est effectivement des questions de goût et couleur, ça se discute. Hein. Mais c'est ça que Schröder a fait sur le marché du travail. Alors, est-ce que ça concourt le fait qu'il y ait 3 millions de personnes qui gagnent moins de 6 euros de l'heure en Allemagne, ça concourt effectivement à faire que les services sont moins chers en Allemagne qu'en France. Ça commence quand même à leur poser des sacrés problèmes. La seule chose qui est à peu près sûre après les élections prochaines, c'est qu'il y aura de toute façon un SMIC en Allemagne. Alors, ils se battent sur les modalités, etc. Mais ils commencent vraiment à en avoir marre de ce développement de la pauvreté laborieuse qu'a entraîné les mesures Schröder. Peut-être un autre point, si vous me permettez, sur la question qui ne m'était pas adressée sur les charges sociales. Je pense qu'il y a un vrai problème dans les politiques françaises là-dessus. C'est-à-dire que ça fait 25 ans que tous les gouvernements français successifs suivent le même raisonnement, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, c'est même la gauche qui avait démarré dans le cas précis, c'est de dire on a beaucoup de chômeurs peu qualifiés, c'est parce qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois peu qualifiés, il faut créer davantage d'emplois peu qualifiés, c'est pour ça qu'il faut faire des abaissements de charges à proximité du SMIC. Bon, on se rend compte que ça n'a pas du tout marché sur le plan des chômeurs peu qualifiés. De toute façon, c'est pas chômeurs peu qualifiés, il n'y a pas 36 solutions. Surtout si ce sont des chômeurs de longue durée, il faut les former, les requalifier, ça coûte cher pour les remettre sur le marché du travail, mais ce n'est pas une question de coût. Ça a bien marché, on a créé plein d'emplois à proximité du SMIC, on est un des pays où la forme de la répartition des salaires est la plus collée au SMIC en Europe. Ça a posé, mais c'est des jeunes plutôt, enfin c'est en général des jeunes plutôt plus qualifiés que leurs parents qui ont occupé ces emplois et qui du coup sont très très mécontents, se sentent déqualifiés, etc., du fait qu'ils occupent ces emplois de smicards. Donc on s'est créé un problème social de ce côté-là. En plus, on s'est organisé pour avoir ce qu'on appelle une trappe à bas salaire, c'est-à-dire comme les charges sociales augmentent très vite, quand vous augmentez les salaires, non seulement les gens sont embauchés au SMIC, mais ils y restent. Et surtout, sur le plan industriel, je crois qu'on s'est piégé nous-mêmes assez largement. C'est-à-dire que ça a été relativement favorable dans les années 90, parce que ça a servi, dans les années 90, ça a contribué à servir à attirer des usines tournevis en France. Donc quand Toyota s'installe à Valenciennes, quand Daewoo s'installe en Lorraine, etc. Quand il s'agit de desservir l'Europe des 15, la France est notamment grâce à cette politique relativement compétitive par rapport à la Belgique, à la Suisse, à l'Allemagne, etc. Et on attire des gens pour des usines tournevis. Simplement, ça valait dans l'Europe des 15. Dans l'Europe des 27, quand il s'agit de jouer à ce jeu-là avec les Roumains et les Polonais, ça ne marche plus du tout. Et l'autre truc, c'est que pendant ce temps-là, comme on n'a pas abaissé, et c'est heureux, enfin en tout cas de mon point de vue, comme on n'a pas abaissé les prestations sociales, il a bien fallu payer l'équivalent des cotisations sociales qui n'étaient plus prises sur les bas salaires. Ce qui fait d'ailleurs que notre système social et fiscal est en fait beaucoup plus redistributif qu'on ne le dit souvent, y compris dans l'alternative économique. La situation d'aujourd'hui, c'est bien que c'est les cadres C'est l'assurance, enfin c'est les cotisations sociales des cadres qui payent l'assurance maladie des smicards. Hein. Donc ça n'a pas que des inconvénients sur ce plan-là. Ça donne un système qui est plus redistributif, un système social qui est devenu plus redistributif. Mais par contre, ça crée un vrai problème, je crois, de compétitivité coût du travail qualifié. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, un ouvrier allemand, je pense qu'il coûte 15 à 20% plus cher qu'un ouvrier français dans l'industrie. Mais je crois que c'est vrai qu'un ingénieur allemand, il coûte plutôt moins cher qu'un ingénieur français, tout compris.
Oui, si vous pouviez revenir sur un point que vous avez, plusieurs d'entre vous, abordé par rapport à la question posée sur l'immobilier, à la fois en termes du coût de l'immobilier français par rapport à l'Allemagne, sur l'immobilisation finalement du capital qui n'est pas investi dans l'entreprise, et puis globalement le poids de l'immobilier dans la vie de chacun, enfin ça pèse sur les transports. On sait que la France a un taux immobilier qui est déraisonnable finalement par rapport à la valeur réelle. Et la question se pose par rapport à votre question, parce que la politique publique va à l'inverse, c'est-à-dire que la fiscalité de la maison principale est encouragée, et puis dans un même temps, même si elle ne l'avoue pas, les villes ont toute une copie cachée pour valoriser le mètre carré sur leur territoire, puisque ça impacte indirectement leur budget. Donc ça devient un petit peu l'hérésie complète. Donc si vous pouviez compléter un peu les points sur le poids, l'argent immobilisé par l'immobilier, la politique immobilière en France qui semble aller à l'inverse justement d'un ressort économique.
Bon, c'est une question faussement naïve, puisque Jean-Luc Bella vient de remettre un rapport disant qu'il fallait drainer l'argent plutôt vers les PME, le développement technologique, le transfert de techno et l'investissement productif. Mais effectivement, pendant des années, parce que l'immobilier pesait cher, comme dans des tas d'autres domaines où on s'est occupé des consommateurs plutôt que de l'offre, on a soutenu de la demande. Par exemple, on donne 300 euros par mois aux étudiants d'aide au logement. Du coup, on ne trouve plus de chambre d'étudiants à moins de 300 et quelques euros dans Paris, puisque de toute façon, le marché est solvabilisé. Donc ça a plutôt eu l'effet inverse de garantir des rentes aux possesseurs d'immobilier. On aurait pu, en mettant le même argent dans des résidences étudiantes, résoudre le problème d'une manière beaucoup moins inflationniste pour les salaires. Bon, alors après, il y a l'aspect démographique qu'a rappelé Guillaume Duval. C'est vrai que c'est plus facile de stabiliser les prix de l'immobilier dans une population qui fonde 500 000 personnes en quelques années que dans une population qui doit en accueillir quelques millions de plus. Mais il y a eu une réorientation même marginale des politiques publiques aurait certainement un effet. Et pour reprendre la réponse qu'a déjà faite Guillaume à la question de Grégoire Postel-Vinet, c'est pareil pour les charges. Le CICE, en allégeant toujours les mêmes, puisqu'il y avait déjà des exemptions de charges, va permettre d'embaucher un peu plus de garçons de café dans les cafés, peut-être de remettre des pompistes dans quelques stations-service. L'impact sur le développement de l'industrie est incertain, vu qu'il y a des tas de salaires qui sont entre 1,6 et 3 fois le SMIC dans l'industrie, et qu'en allégeant le coût de ce travail-là, on aidait quand même fortement l'industrie. Et je rappelle l'alternative, puisque Guillaume parlait du système nordique, qui est un autre modèle par rapport au système allemand. Les Suédois ont fait un énorme déplacement de fiscalité en taxant très fortement le carbone. Ils sont à plus de 120 euros la tonne pour les consommateurs en Suède, un peu moins pour les industriels, mais avec un schéma de prévision dans le temps où les charges fiscales des industriels vont converger vers celles des consommateurs, à prélèvement constant pour leurs industriels. C'est-à-dire qu'ils allègent le coût du travail à l'aide des revenus de cette fiscalité écologique. Et donc, ils envoient un signal prix très clair pour favoriser la transition écologique sans pour autant taper sur leur industrie. D'une manière générale, le système suédois, c'est intéressant de ce point de vue-là, détaxe l'économie intermédiaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de taxer l'industrie. L'industrie, si elle marche bien, elle va verser des salaires et des dividendes. Il n'y a qu'à taxer au bout les salaires et les dividendes qui seront versés, on obtiendra le même résultat, en encourageant beaucoup plus la création d'activités.
Il y a peut-être, si je peux dire un mot sur l'immobilier.
Oui, et juste un point sur l'immobilier. 900 000 immigrés supplémentaires, ça a commencé à faire monter l'immobilier.
Oui, donc l'immobilier remonte en Allemagne, mais il y a aussi les taux d'intérêt qui jouent un rôle. Les taux d'intérêt négatifs, ça fait monter le prix de l'immobilier en Espagne, mais ça les fait monter aussi en Allemagne. Simplement, oui, donc les Français sont les quatrièmes plus riches au monde, si on en croit le Crédit Suisse, et en général on peut croire les Suisses sur ce genre de choses, en termes de patrimoine par habitant. Après, les Australiens, les Norvégiens et les Suisses. Simplement, c'est vrai que notre patrimoine, il est investi aux deux tiers dans l'immobilier, c'est-à-dire une activité absolument pas productive et totalement rentière. On investit dans le foncier. Alors, c'est vieux en France, la terre qui ne ment pas, comme disait le maréchal. C'est une très longue tradition, mais c'est vrai que c'est une tradition qui est quand même à l'origine, je crois, assez nettement de nos problèmes industriels. Alors, c'est vrai qu'après, c'est plus facile à dire qu'à faire que de dégonfler la bulle immobilière et de transférer le patrimoine immobilier des Français vers d'autres types d'actifs, ne serait-ce que parce que si tout le monde se met à vendre l'immobilier en même temps, les prix de l'immobilier vont fondre. Vous avez peut-être vu toutes ces études de la BCE qui disaient que les Allemands sont les plus pauvres en Europe, donc ça fait effectivement beaucoup de bruit en Allemagne, parce que les autres ont de l'immobilier en général, mais c'est une richesse assez largement fictive, parce que si on se met à réaliser tous ensemble ces avoirs immobiliers, les prix fondent immédiatement. Et on a un peu le même genre de difficulté en France. Mais je dirais que la difficulté principale, c'est d'abord la question de la confiance dans l'avenir. Si les gens investissent dans l'immobilier, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils n'ont pas confiance, en particulier dans la stabilité des systèmes sociaux et dans le fait qu'ils pourront vivre bien, en particulier quand ils seront vieux, s'ils restent locataires de leur logement et s'ils ne sont pas propriétaires. Donc il y a un lien très étroit entre la capacité à réorienter l'épargne des Français vers des usages en particulier industriels, productifs, et la stabilisation des perspectives du système de protection sociale. Tout le discours qui va dans le sens, on ne pourra jamais plus payer de retraite, on n'aura plus d'assurance maladie, etc., ça empêche radicalement d'espérer que les Français mettront leur épargne dans autre chose que dans l'immobilier. Et en ce sens-là, c'est parfaitement contre-productif.
Oui, juste une remarque, et j'ajouterai à ça qu'il faudrait encore que l'épargne populaire, la petite épargne, soit rémunérée à des taux positifs, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas. Ça n'a pas été le cas pendant les 30 glorieuses, absolument pas, les taux étaient négatifs tout le temps. Et ce n'est désormais plus le cas. Et même, il y a quelques années, je me souviens des fonds DSK, c'est-à-dire c'était des fonds dédiés à l'investissement dans les PME technologiques. En moyenne, ils ont perdu la moitié de leur valeur. Quand on voit pendant ce temps-là l'immobilier qui, lui, a vu ses prix multipliés par deux, il n'y a pas photo, comme on dit vulgairement. Donc moi, quand j'entends parler de réorientation de l'épargne vers les entreprises et que je vois que globalement, l'épargne qu'on cherche à réorienter, elle est tout simplement spoliée, quel que soit le support, que sans état d'âme, on a un taux du livret A qui est inférieur à l'inflation, on n'en parle pas. Comment fait-on ? Moi, ça ne m'étonne pas que les gens... Finalement, le seul risque qu'ils prennent dans l'immobilier, c'est le risque, en effet, de ce que tout le monde vend en même temps, que ça s'effondre, mais ça ne se produira pas. Donc, ils ont raison. Les gens sont intelligents et logiques.